7-9. Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 décembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, c'est un raz-de-marée du variant Omicron qui déferle sur le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique annonce une accélération de la campagne de rappel vaccinal. On voit ça Anaïs, après les autres titres.
Les 100 euros de l'indemnité inflation versés à partir d'aujourd'hui à 38 millions de personnes. Le président de la République attendu dans la Hongrie de Viktor Orban, adversaire politique mais allié européen, nous verrons pourquoi. Et puis, un festival de musique ici à la Maison de la Radio, c'est une première.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, avec vous Léa.
Il est toujours aussi émouvant, poétique et très drôle. Il nous invite à une soirée de gala pour son nouveau spectacle. Vincent De Dienne sera avec nous à 7h50 et on est très, très content.
Oui, on est très content. On se retrouve Léa, évidemment, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande, Manuel Valls, auquel vous pourrez poser toutes vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Omicron sera le variant dominant en Angleterre d'ici à quelques jours. Le gouvernement de Boris Johnson sonne le branle-bas de combat pour éviter des hôpitaux submergés. Allocution solennelle depuis Downing Street hier soir à la télévision. Get your booster now. Allez faire votre rappel, dit le Premier ministre anglais, dans cette course contre la montre contre un variant nettement plus contagieux. À Londres, Laura Calmus.
L'annonce était solennelle et Boris Johnson a pris un ton grave. En cause, Omicron et sa propagation fulgurante plus rapide que le variant Delta.
Personne ne doit en douter. Il y a un raz-de-marée d'Omicron qui arrive et je crains qu'il ne soit désormais clair que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin.
Une troisième dose est désormais offerte à tous les adultes. Jusqu'à maintenant, elle n'était accessible qu'aux plus de 40 ans. Alors, pour accompagner cette opération de vaccination d'urgence, les centres vont se multiplier, leurs horaires seront étendus et des militaires seront déployés alors que le niveau d'alerte Covid vient tout juste d'être levé. Au Royaume-Uni, il y a actuellement plus de 3000 personnes contaminées par le nouveau variant qui pourrait devenir dominant d'ici quelques jours avec 1 million de cas Omicron d'ici la fin du mois de décembre, selon le ministre de la Santé. Et s'agit de Javid. Dès aujourd'hui, c'est le retour du télétravail pour les employés qui peuvent travailler de la maison. Et Boris Johnson va également rendre le pass sanitaire obligatoire dans certains lieux, comme les gros événements sportifs et les boîtes de nuit. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et à partir de demain, les Anglais vaccinés, mais qu'à contact, devront faire un test antigénique tous les jours, pendant 7 jours. La pandémie de Covid a déjà fait plus de 146 000 morts au Royaume-Uni, 120 000 décès enregistrés en France et dans les hôpitaux ici, plus de patients en soins intensifs actuellement qu'au pic de la vague de cet été. Les premières doses de vaccins pour enfants arrivent aujourd'hui pour des premières piqûres possibles pour les plus fragiles dès mercredi, à quelques jours des vacances scolaires. L'école où la pandémie bouleverse les rapports entre familles et enseignants, des réunions parents-prof annulées, des rencontres en présentiel quasi impossibles. Dans ce collège parisien, on commence à s'en inquiéter. Yann Gallic.
Dans ce collège public du 13e arrondissement de Paris, les parents se plaignent de n'avoir quasiment plus d'échanges avec les enseignants, sauf par téléphone ou via l'application Pronote dédiée à la gestion de la vie scolaire.
On ne peut communiquer que par cet outil-là ou lorsque certains professeurs communiquent leur adresse mail.
Jamila fait partie de la FCPE, l'association de parents d'élèves. Son fils est en classe de 5e. Difficile de voir les professeurs, dit-elle, sauf en cas de gros problèmes.
Même si effectivement on a accès à tous les outils de communication à distance, à un moment donné on n'a plus de personne en face. On ne voit pas les professeurs. Lorsqu'on les appelle, les contacts, ils répondent présents. Mais encore une fois, c'est plus long. C'est-à-dire que tout est distancié, tout demande en fait un peu plus d'énergie et c'est compliqué en tant que parent.
À cause de la situation sanitaire, la direction du collège a décidé d'annuler les réunions parents-professeurs qui étaient prévues à la fin du premier trimestre.
Les arguments avancés sont légitimes aussi. Mais en tout cas, c'est décevant pour les parents qui souhaitaient rencontrer les professeurs. Pas de remise de bulletin en direct. On n'a pas ce passage, vous savez, obligatoire avec l'élève, avec le parent, avec l'enseignant, pour un peu instaurer cette autorité, on n'a plus rien.
Le protocole sanitaire qui s'applique actuellement dans les collèges et les lycées n'interdit pas ces rencontres entre les parents et les enseignants. De nombreux établissements ont d'ailleurs d'ailleurs décidé de les maintenir pour garder le lien avec les familles.
Yann Gallic, l'aide du gouvernement pour passer les fêtes de Noël, le chèque énergie exceptionnel arrive dans les foyers les plus démunis et dès aujourd'hui c'est l'indemnité inflation de 100 euros qui est versée. Là, ce sont tous ceux touchant moins de 2000 euros par mois qui sont concernés, au total 38 millions de personnes, car l'inflation a augmenté de plus de 5% sur un an dans les pays de l'OCDE, du jamais vu depuis 1997. Delphine Simon, est-ce une tendance appelée à durer ?
C'est la question du moment. Les prix à la consommation vont-ils continuer de grimper ? En novembre, ils grimpent de 2,8%, quasiment du jamais vu en 30 ans. Du côté de Bercy, on relativise. Presque la moitié de la hausse est due à l'énergie, pétrole, gaz, électricité. Les tarifs flambent, plus 21% en novembre, selon l'OCDE. Et ça pourrait durer jusque fin 2022, vu les négociations difficiles avec Moscou sur le gazoduc Nord Stream 2 ou les problèmes de pénurie de matériel d'œuvre avec la reprise de l'épidémie. De quoi renchérir les prix des services et des produits manufacturés, reconnaît Bercy, qui tente d'éteindre l'incendie à coups de milliards d'euros. Revalorisation du SMIC en cours d'année, chèque énergie, chèque inflation, tout ça risque de coûter plus cher à l'État que les 6 milliards d'euros prévus dans le budget l'an prochain. On pourrait monter jusqu'à 8 à 9 milliards d'euros de dépenses, selon certaines sources bien informées.
France Loisirs pourrait bien disparaître aujourd'hui. Décision cet après-midi du tribunal de commerce de Paris. L'aventure de l'enseigne au logo rond bleu et livre rouge risque de ne pas se remettre des dernières crises et mutations. Précision dans le journal de 7h30.
Il est 7h07 et maintenant, quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie ?
Eh bien, c'est une page presque blanche après le dernier référendum qui confirme le non à l'indépendance. Abstention record qui n'enlève toutefois rien à la légitimité du scrutin. Il faut désormais réfléchir à un nouveau statut, dit le ministre des Outre-mer sur Inter. Mais si chacun pense à la suite, personne ne regarde dans la même direction. Notre envoyé spécial en Nouvelle-Calédonie, Sandrine Etoua-Andegue.
Après la célébration de la victoire, c'est le moment de réinventer le modèle de société calédonien, répète Sonia Bakès. La présidente de la province sud et coprésidente des loyalistes veut vite tourner la page.
Cette victoire, elle est belle. C'est la fin de l'accord Nouméa, c'est le début de quelque chose de nouveau. Cette troisième fois, les indépendantistes ont demandé le référendum, ils ont décidé de ne pas y participer. Je dirais tant pis. Les Calédoniens ont choisi aujourd'hui de rester dans la France. Donc on construira un projet ensemble et nous sommes très ouverts à travailler sur tous les sujets avec les indépendantistes. Mais ce sera dans la République.
Mais pour le président indépendantiste du Congrès, Roch Ouamitan, ce référendum est nul et non avenu. Il dit vouloir négocier directement avec l'État, mais une fois que la présidentielle sera passée, et il n'exclut pas de redemander à l'avenir un référendum sur l'indépendance. Pour l'heure, les autres responsables indépendantistes divisés refusent de s'exprimer sur la stratégie, une absence de direction que fustige Florenda, une militante qui a été votée malgré tout.
Ok, maintenant vous avez dit aux gens de ne pas participer. Mais c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a un accord qui va être fait ? Du coup, faut dire les indépendantistes, faut dire au peuple. En fait, il y a un autre accord qui se prépare. Faut nous dire la vérité. C'est ça qu'on attend.
Elle appelle aussi à un renouvellement des figures politiques du mouvement. Certains sont en place depuis plus de 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la moitié de la population calédonienne.
Sandrine Etoua-Andegue à Nouméa. Emmanuel Macron va cultiver l'art du « en même temps » aujourd'hui en terre hongroise. Le président de la République arrive en fin de matinée à Budapest et avant sa rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban. Il ira se recueillir sur la tombe de l'opposante Agnès Heller qu'il avait reçu à Paris. À moins de 3 semaines de la présidence française de l'Union européenne, la Hongrie d'Orban reste un partenaire incontournable, Louise Baudet.
La lèpre populiste dénoncée il y a 3 ans ne fait plus partie du vocabulaire d'Emmanuel Macron. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Viktor Orban reste son meilleur ennemi. Europhile progressiste contre national populiste, les deux hommes ont en commun de briguer la réélection dans 4 mois et doivent mobiliser leur camp précisément contre tout ce que l'autre incarne. Orban vient d'accueillir à bras ouverts Marine Le Pen et Éric Zemmour. Aujourd'hui, ses propres opposants sont reçus par Emmanuel Macron, qui va également saluer la mémoire de la philosophe Agnès Heller, figure anti-Orban. Entre-temps, le président français va déjeuner avec le Premier ministre hongrois, car cet adversaire est aussi un partenaire au sein de cette Europe unie qu'Emmanuel Macron veut faire avancer. Nucléaire, numérique, investissement, défense, les convergences existent, affirme l'Élysée. De son côté, Viktor Orban n'a pas intérêt à rompre avec l'UE et sa manne financière. Moins moins un duel qu'un duo, donc, où chacun va devoir peser ses mots. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
Aux États-Unis, la puissance dévastatrice de la nature. Au moins 94 morts et de moins en moins d'espoir de retrouver des survivants sous les amas de planches, de briques, de restes de bâtiments balayés par une trentaine de tornades vendredi. Événement hors du commun. Les photos de ces villes en miettes sont à voir sur franceinter.fr et nous serons sur place avec notre correspondant dans le journal de 8h.
Il est 7h10. Attention à ne pas faire n'importe quoi pour remplacer les forêts malades.
Oui, on aurait envie de mettre des essences plus résistantes, plus robustes à la place de nos feuillus traditionnels qui souffrent ou de nos résineux malades du changement climatique. Mais la Société botanique de France alerte dans un livre blanc à l'occasion des Assises de la forêt. Pas d'arbres exotiques sans penser aux conséquences à long terme. Célia Kiré.
L'exemple le plus parlant, c'est l'eucalyptus. Cet arbre originaire d'Australie pousse très vite. Les forestiers peuvent être tentés d'en planter à tout va pour recréer une forêt. Mais en France, comme en Espagne, cet arbre exotique n'est pas adapté. Il est même dangereux, insiste Guillaume Decoq, professeur à l'université de Picardie et vice-président de la Société botanique de France.
Vous connaissez les médicaments à base d'essence d'eucalyptus, hein, c'est une essence très inflammable. En contexte de sécheresse, de canicule, ça favorise énormément l'inflammabilité des forêts. Les méga-feux californiens, c'est essentiellement au niveau de zones plantées en eucalyptus. Au même moment, la France est en train de promouvoir la même essence dans des zones à fort risque d'incendie.
Et le feu n'est pas la seule conséquence. La Société botanique de France demande tout simplement un moratoire pour arrêter de planter des essences exotiques. Il y en a une soixantaine en France qui sont préconisées par l'État malgré leur danger.
On a des exemples avec les espèces exotiques envahissantes. Ensuite, il y a les essences qui introduisent des insectes ravageurs. Vous avez également actuellement l'épidémie de calarose du frêne, une maladie qui a été introduite en Europe avec des plants de frêne chinois, du frêne de Mandchourie.
Et des plantations sont dévastées. Or, il existe des solutions, planter par exemple des hêtres de Provence ou de Corse dans le nord de la France pour s'adapter au réchauffement.
Et sur franceinter.fr, notre dossier sur les forêts en souffrance face à ce réchauffement. Réchauffement aggravé par les géants européens de la viande et du lait, malgré leurs annonces d'objectifs climat entre 2015 et 2017. Danone et Lactalis ont augmenté de 15 et 30% leur empreinte carbone. Étude d'une ONG qui appelle les gouvernements à réglementer l'agro-business. Le PSG dit encore une fois merci à Kylian Mbappé, auteur du doublé hier soir 2-0 face à Monaco. Et puis un scénario digne des films à suspense les plus exaltants. La Formule 1 conclut la saison sur un incroyable sacre. Max Verstappen, champion du monde à l'issue du dernier virage de la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Un probable dénouement contesté par Mercedes. Et nous sommes heureux de vous annoncer le premier festival Radio France, 3 nuits de création musicale avec Alex Baupin ou Jean-Michel Jarre, suite logique de l'hypernuit créée pendant le confinement, nous explique le directeur musical des antennes Didier Varro.
C'est aussi la volonté d'illustrer de façon très concrète ce nouveau nom de la Maison de la Radio, qui est Maison de la Radio et de la Musique, avec un événement pour la première fois sur 3 jours, de 11h du matin à 3h le lendemain, 3 jours et 3 nuits de concerts. Avec beaucoup de création, puisque c'est dans l'ADN de la maison. Et là, c'est Clara Luciani qui va donc faire une parenthèse dans sa tournée gigantesque qui est très disco queen et très électrique et se retrouver à l'auditorium. C'est à la fois un geste créatif très fort et en même temps, ça contraint l'artiste à revoir son répertoire de façon extrêmement forte et inédite et singulière. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience.
Et oui, et ce Festival Radio France, ce sera les 21, 22 et 23 janvier.
Merci Anaïs Feu. Le Zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, profession cascadeur.